Bonjour à tous, bienvenue sur le nouvel épisode de Comics Weekly, épisode numéro 58. Salut Benny.
Salut Steve, qui on
Salut Marc.
enregistre d'un monastère aujourd'hui.
On va pouvoir avec notre conversation juste avant.
Oui.
Tu vas bien?
Oui, ça va, tout va bien.
Eh bien, je te laisse commencer avec ton numéro de la semaine, parce que moi, en gros feignant, j'ai pas cherché, j'en ai pas cette semaine,
Bon,
mais
alors,
tu en as un.
petit numéro de la semaine, le What If 58, mais volume 2. Et alors, en fait, le pitch de cet épisode, c'était tout simplement, et si le Punisher avait réussi à tuer Spider-Man?
Donc dans le Amazing 129.
Exactement, exactement. D'ailleurs, on a une espèce de parodie bien connue de la couverture. Enfin, bien connue. Une couverture qui a été parodiée de nombreuses fois, en tout cas. Bah là, donc, il réussit son coup. Il tue Spider-Man. Et après, tout simplement, il se rend compte qu'il a fait une grosse bêtise en tuant Spider-Man. Et du coup, le Punisher se met à traquer le Chacal qu'il avait mis sur cette fausse piste. Et d'ailleurs, c'est bien que je le parle du Chacal, puisqu'on va en reparler sans doute tout à l'heure.
Est-ce qu'il se suicide à la fin? Ah,
Enfin,
excellent!
du moins, il est dans une situation qui fait que il va, on subodore qu'il va tuer le chacal, qu'il va tuer le
Jacko.
chacal, mais qui va aussi par la même occasion se faire tuer, quoi. Donc
Ok.
c'est en quelque sorte, oui, c'est du suicide.
Ok, non, je pensais peut-être que de culpabilité,
Bah,
voilà, il se
moi
mettait le
aussi.
flingue sous la bouche et poum.
Quand je l'avais lu à l'époque, je pensais que ça allait se terminer comme ça, pas tout à fait, mais presque. Et au scénario, on retrouvait quand même Chuck Dixon. Chuck Dixon, bien connu, qui a écrit du Batman pendant des années.
Qui a fait aussi du G.I. Joe, chez Devil's Due, mec habitué aux trucs d'action quand même.
Voilà. Donc le Punisher, ça tombait sous le sens. Qu'il
Et
ait envie de faire une petite histoire sur lui.
je me demande s'il n'a pas écrit de Punisher pendant un moment.
Si, il me semble, maintenant que
Ouais.
tu me le dis,
Dans
ouais.
les années fin des années 80, début des années 90. Une époque
Certainement, ouais.
où il y avait trois séries Punisher en même temps.
C'est vrai, c'est un petit peu le Deadpool de d'hier, quoi.
L'humour en moins, je pense.
Ouais. Les flingues en plus. Non, bah pas même pas d'ailleurs les flingues.
Oserais-je un l'humour pourri en moins?
Oui, bah on va
Ah bah
peut-être
j'ai
y
osé.
venir d'ailleurs. Très vite.
Mais bah du coup, on va enchaîner avec la partie news.
On va commencer peut-être par Marvel. Avec cette semaine, eh bien, une annonce quand même assez importante. Figure-toi que les héritiers de Jack Kirby ont perdu leur procès face à Marvel. Récemment, il y avait eu le procès donc, des familles Siegel et Shuster par rapport à Superman et à DC, qui avaient remporté leur procès. Là, bah, c'est le contraire qui s'est passé, c'est-à-dire que ces héritiers ont perdu le procès. Marvel a au fait gagné en prétextant que bah, qu'il était prestataire de service, en gros, à l'époque. Et que donc il n'avait aucun droit sur les personnages qu'il a créés malgré tout avec Stan Lee.
C'est con. C'est très con. Après, tout dépend de comment était rédigé le contrat d'époque. Si la famille Kirby veut essayer encore de gagner de l'argent, pourra peut-être essayer d'attaquer DC cette fois-ci, puisqu'il a créé énormément de choses chez DC. Peut-être un autre procès pour la famille Kirby à venir.
Peut-être qu'avec DC, ça s'était déjà réglé et c'est. Enfin, c'est déjà, comment dire, son dû est déjà, a déjà été versé à la famille, etc. Mais je ne sais
Ouais, je sais pas non plus. C'est vrai que ça, c'est le genre de choses qu'il n'aime pas trop crier sur tous les toits.
pas. Alors, faut rappeler qu'il est disparu en 94, si je dis pas de bêtises.
94, ouais, c'est ça.
Donc, c'est voilà. En plus, c'est une affaire qui commence à dater un petit peu et c'est toujours difficile de statuer là-dessus lorsque la personne la plus concernée a disparu depuis autant d'années, quoi.
Tu remarqueras que c'est plus souvent d'ailleurs les familles et tous les ayants droit qui essayent de rafler un maximum et pas forcément le créateur en lui-même.
Ouais, c'est vrai. Mais bon.
Comme quoi, hein.
Mais bon, de son vivant, a-t-il eu le temps, voilà, de régler tout ça? Enfin voilà, la question est complexe et
Mais je crois que la plupart des créateurs, quand la situation ne leur plaît pas, ils choisissent d'aller travailler en face ou travailler pour d'autres maisons, voire même carrément d'arrêter de travailler dans ce milieu. Généralement, ils
voire
sont
même d'arrêter de travailler. Point.
dans ce milieu-là, en tout cas.
Ouais.
Après, je sais pas, il y a peut-être déjà eu des procès avec des créateurs de leur vivant, et c'est vrai que c'est plus souvent des familles, quoi. Puis ça touche généralement des monuments, donc forcément des trucs qui ont beaucoup, beaucoup d'années d'existence. Voilà, c'est rare d'avoir des créateurs qui se rebellent, on va dire.
Ouais, tout à fait.
Ah, c'est un peu dommage pour eux et en même temps, ça aurait été vraiment très compliqué pour Marvel de gérer tout ça.
Oui, parce qu'on aurait pu avoir effectivement une situation comme chez DC où il aurait fallu peut-être changer pas mal de personnages Marvel. Donc bah d'ailleurs dans les personnages qu'il a créés, co-créés avec Stan Lee, on peut citer Quoi, le surfeur d'argent?
Ouais, Captain America.
Ah, oui, bah oui, surtout, oui, c'est vrai.
Mais puis, je pense que c'est surtout ça qui leur faisait peur, quoi.
Bah alors justement, en parlant de gros flingues et de grosses stars des années 90, figure-toi que Cable va revenir.
J'ai peur que tu m'annonces le retour de Larry Hama.
Non, ah bah peut-être, au scénario, non, non, puisque normalement c'est Jeff Loeb et Ed McGuinness, c'est leur fameux projet, rappelle-toi. On ne savait pas ce que c'était, et
Bah,
bien ce serait Cable Reborn.
on avait pensé que ça pouvait être ça aussi. Bon bah voilà. Il sera pas resté très longtemps mort, celui-ci.
Non.
Enfin, quelle version de Cable ce sera?
Oui, est-ce que ce sera dans un univers alternatif, peut-être?
Oui, ou vu que c'est un voyageur du temps, est-ce une version plus jeune de lui qui va revenir? On va savoir.
On n'a pas l'impression sur l'espèce de visuel qu'on a vu, mais bon, voilà. On ne sait pas, en tout cas, bon bah moi ça m'intéresse quand même.
Enfin, en même temps, nous ressusciter un Cable tel qu'il était à la fin du Second Coming, ça va être difficile parce qu'il a quand même vécu 18 ans dans le futur. Cable, il a pris de l'âge. Enfin, je sais pas, il arrive à combien? 60, 70 ans? Enfin, ça paraît presque illogique d'avoir un personnage aussi balèze qui tient
Tout à
encore sur
fait.
ses jambes, quoi.
Bon, bah on verra, hein. On en reparle très vite. Dans les autres teasers de la Comic-Con, il y avait aussi un teaser en fait marqué Dead 2012. Donc un Dead marqué à la manière de Deadpool. Et il semblerait que, grande nouvelle, Deadpool ait un grand rôle à jouer chez Marvel en 2012. Alors là, ça te fait super plaisir.
Comme il avait un grand rôle en 2011, en 2010, en 2009.
Oui, enfin un grand rôle dans le porte-monnaie Marvel, mais là peut-être qu'il aurait le droit carrément à son propre event. Alors est-ce que ça toucherait les X-Men? Est-ce que ça toucherait tout l'univers Marvel? Est-ce que c'est un gros gag encore une fois? On sait pas trop.
Imagine un event où c'est Deadpool en personnage principal, ça risque d'être assez ingérable.
Oui.
Et ça fait un peu peur quand même, hein.
Oui, ça fait très peur, surtout que c'est vraiment le personnage qu'on. Bah, ils sont à peine en surdose quoi de Deadpool, hein, j'ai envie de dire.
J'ai beaucoup aimé ton hésitation, le personnage qu'on... Voilà.
Qu'on aimerait ne plus voir pendant un certain temps,
Non, mais
par
donc, tu aurais
exemple.
pu arrêter ta phrase là, le personnage qu'on...
Con, oui, pardon.
Voilà.
Très bien. On finit sur Marvel avec des news de JMS. Donc, eh bien, au fait, JMS a annoncé plusieurs choses à la Comic-Con. Tout d'abord, qu'il allait prendre 2 à 3 années sabbatiques. Alors,
D'accord.
il va se retirer de l'écriture des comics pendant tout ce temps-là.
Pour
Donc,
écrire une série.
mauvaise nouvelle.
Sûrement.
Mais avant ça, il termine quand même l'écriture de The 12.
Bah, il avait déjà rendu son script, hein, normalement, il y a quelques semaines déjà.
Ouais. Ben, en tout cas, là, il disait qu'il terminait l'épisode final. Donc bon, The 12, on devrait avoir toute la fin en 2012. Si tout va bien.
D'accord. Bah, ça sera
Idem
pas mal.
pour Superman Earth One, tome 2, bien entendu, qui devrait sortir à la mi-2012.
Là, par contre, ça va faire peut-être un peu chier DC, sinon pas de Superman tome 2, enfin de tome 3, pendant plusieurs années.
Oui, bien alors ce sera plus lui qui signera les épisodes suivants.
Est-ce que ça aura la même qualité, ça?
Ah bah faut voir hein, si Geoff Jones décide d'en faire par exemple. Bon, on verra. On verra ce que ça a. Déjà si ce tome 2 vaut le premier, qui d'ailleurs m'avait pas laissé un souvenir impérissable, contrairement à beaucoup de monde. Mais bon. Alors non, si on continue sur Marvel, j'ai oublié un truc très important, Marvel TV. Rappelle-toi, on avait parlé de ce projet. Au fait, enfin, c'est le nom qu'ils ont donné à tout ce qui est production de séries télé et puis de dessins animés.
Dont je, si mes souvenirs sont bons, Jeff Loeb
Le
fait partie
président.
intégrante, quoi.
Oui, voilà, c'est ça.
Il
Bah, il devrait y avoir donc une série télé Hulk avec Guillermo del Toro. Non,
dans
de
le rôle
Guillermo
de
del
Hulk.
Toro d'ailleurs, je veux dire. De
Ça aurait
Guillermo
pu être
del
drôle.
Toro sur ABC.
Sur ABC, bon, remarque, oui, puisque Disney.
Voilà. Donc on n'en sait pas beaucoup plus, hein. C'est vraiment en vrac. La série Alias est toujours en projet.
D'accord.
Luke Cage et Carol Danvers devraient être de la partie. Donc, bon.
Ben oui, enfin, en même temps, si c'est l'adaptation du comic, ça me paraît logique.
Ensuite, Cloak & Dagger devrait peut-être avoir une série télé. Donc
Ouais, il y avait eu des rumeurs déjà.
ça se passerait à la Nouvelle-Orléans, après Katrina. Faut voir.
Ça peut peut-être attirer des personnages assez atypiques, pas trop connus du grand public. Il y a peut-être moyen d'en faire quelque chose.
D'ailleurs, on les voit de plus en plus en ce moment dans les comics. Mockingbird aussi pourrait avoir une série télé.
Ou alors là, par contre, ça me plaît moins. Ça m'attire pas. Enfin, je veux dire, Mockingbird, j'ai l'impression que ça va... Ça va être un petit peu ce qu'on a
Du
déjà
foutage de
vu.
gueule.
Ben, non, ce qu'on a déjà vu en fait.
Il se moque de nous.
Comme bah, justement la série Alias, mais la première série du nom, tu vois.
Ah oui,
J'ai peur que
d'accord.
ce soit plus dans cet esprit-là, puisque bah, c'est une espionne.
Bah, ça avait bien fonctionné, hein, cela dit.
5 ans.
Quand même. Ce qui n'est pas rien pour le joyeux monde des séries télé.
Faut voir les ratings à la fin aussi, quoi. C'était pas forcément ça non plus.
Alors, on va parler de dessin animé maintenant. Ultimate Spider-Man. Donc, bon, bah, ça, c'était prévu. Un dessin animé Ultimate Spider-Man. Mais aussi un dessin animé Hulk and the Agents of Smash. Alors avec des Hulk de toutes les couleurs, Scare, A-Bomb, tous les personnages de d'Incredible Hulks. Voilà, en gros, ce
Ouais,
qu'on
ça peut le faire.
au dessin animé, ça peut être sympa.
En espérant que Greg Pak soit derrière.
Et en espérant que ce soit pas non plus trop comme le dessin animé Hulk des années 90. C'était pas génial, génial. Et enfin, il y aurait peut-être un dessin animé Astonishing X-Men qui adapterait au fait le run de Joss Whedon et John Cassidy.
Ils avaient déjà tenté l'expérience en motion comics. Bon, à voir si en dessin animé ça aura plus de succès.
Bon alors, c'est tout hein, cette fois-ci pour
Bon,
les...
c'est déjà pas mal comme news, hein. Moi, je sais pas, il y a plusieurs projets qui m'intéressent là.
Oui, bon, on en reparle dans les futurs mois, hein, voilà, sur le site, dans les podcasts. On est à l'écoute des comics. Oh, c'est beau. Bon. Donc, ben, on va passer chez d'autres éditeurs parce qu'il s'est passé d'autres choses entre-temps. On va faire un petit peu d'indé, par exemple. Chez Image, Brian K. Vaughan revient aux comics avec Fiona Staples au dessin. Et c'est un comics qui s'appellerait Saga. Alors, la question, c'est est-ce qu'il y aura Stéphane Bern?
Moi, j'allais dire, est-ce qu'il y aura Maxime Gabarni,
Oui, souviens-toi de cette formidable
oui.
émission qui égayait nos étés. Il fut un temps.
Bah, il y avait un public pour, apparemment.
J'ai même le générique en tête qui me revient, c'est horrible. Voilà.
Pitié.
Donc bon bah là, que dire de ce premier visuel? Ça me fait comme ça là, à chaud, ça me fait penser un peu à du Fable. Voilà. Est-ce que ce sera peut-être la version Fable de Brian K. Vaughan?
Chez Image. Why not?
Bon, aussi chez Image toujours, Frank Cho est sur deux titres. Alors on l'avait annoncé précédemment, Guns.
J'ai envie de te faire une vanne de merde, quoi. Il est chaud.
Oui, oh
Il est
là là.
chaud comme la braise.
Oh là là.
Voilà.
Tu nous fais ton show là.
Exactement.
Et qui n'est pas Sébastien, l'autre. Voilà. Franck, bien sûr. Donc Guns
Oui,
and
mais pas
Dinos.
tort.
Voilà, oh putain. Vive les transitions. Hein. Guns and Dinos, donc qu'on avait annoncé, rappelle-toi, il y a quelques Comics Weekly de ça. Et Brutal, alors Brutal, qui a l'air très brutal, comme son nom l'indique, avec un personnage qui se prend une pêche phénoménale dans la tronche, sur la première couverture.
Au moins, on ne pourra pas dire qu'il y a tromperie sur la marchandise.
Avec Joey Keatings.
Je ne connais pas du tout.
Oui, bah, moi non plus. Donc,
Donc, il
bah,
serait que scénariste?
alors,
Sur Brutal?
mais je ne sais pas, non, parce que là, le dessin, c'est du Frank Cho.
Donc, c'est peut-être le scénariste.
Le co-scénariste, peut-être.
Ouais.
Ou l'encreur.
À voir quand ça sortira.
Oui, voilà, de toute
Bon, en tout
façon.
cas, moi, je suis plutôt client de Guns and Dinos.
Ah ben moi je suis plutôt de Clio de Franck Show, Clio. Je suis plutôt client de Franck Show en général. J'aime bien son trait, j'aime bien ses personnages, putain.
Bon,
Voilà.
et voilà, s'il y a le même délire que dans Jungle Girl avec l'ambiance un peu Cadillac et dinosaure, bon, je dis pourquoi pas quoi, ça peut être sympa.
Rappelons que c'était Batista, hein, Jungle Girl. Enfin, c'est un émule de Franck Show, il est vrai. Et
Bon,
je crois
enfin,
que
c'était sa création,
c'était sa
Jungle Girl.
création, hein, il avait dessiné, effectivement. Ben alors, ensuite, oui, alors on va passer chez Vertigo. Vertigo, pas mal de choses aussi chez Vertigo d'annoncer à la San Diego Comic Con. Un spin-off à Fable qui s'appellera Fairest. Au fait, ce sera une suite de mini-séries avec portant sur différents personnages au fur et à mesure. Bill Willingham commence la première. Il sera accompagné de Phil Jimenez au dessin.
Pas mal.
Voilà. Et bah écoute, que dire de plus là-dessus? Ce sera normalement sur La Belle au bois dormant,
D'accord.
puisque ça s'appelle Sleeping Beauty, donc j'imagine que c'est bien cela. D'ailleurs, il y avait des rumeurs d'un spin-off sur ce personnage, je crois, qui traînait depuis des années.
C'est vrai que comme Cinderella a eu ses mini-séries, c'est l'autre possibilité, quoi.
Et donc voilà, donc au fait, ça va se changer en série de mini-séries. J'espère que je suis clair comme ça.
Ouais, une série d'arcs qui n'auront pas forcément de suite les uns les autres.
Tout à fait, avec pas forcément les mêmes auteurs.
Voilà, exactement. Mais c'est pas plus mal qu'il puisse approfondir son univers comme ça, puisque bah, il faut qu'il suive quand même une certaine trame dans sa série régulière. Donc, du coup, il y a forcément des personnages qui passent à la trappe. Voilà, là, ce sera la possibilité de faire des aventures avec ces personnages-là, de nous expliquer leur passé. Ouais, ça peut être très sympa. Après, il faut voir les auteurs qu'il y aura dessus, parce que n'est pas Bill Willingham qui veut.
Et rappelons que la série compte déjà plus de 100 numéros. Encore une série qui a de beaux jours devant soi, en français aussi, théoriquement, j'espère. Bah, ah, c'est pas tout, hein. Il y a eu d'autres news Vertigo. Sculpt s'arrête au numéro 60.
Ça, c'était prévu déjà.
Ah bon, d'accord. Ah bon, ouais.
Oui,
Bon, bah, c'est confirmé alors.
RM Guérin nous l'avait annoncé pendant la Lille Comics Festival.
Ah
Pas
putain.
forcément que ça s'arrêterait au numéro 60, mais que la série avait déjà une fin de prévu.
Bon bah voilà, bah, maintenant c'est officiel, c'est annoncé, ce sera pour le numéro 60. À partir de novembre, The Unwritten sortira deux fois par mois. Alors attention, c'est un peu compliqué, c'est-à-dire qu'il y aura des numéros 0.5. Tu vois,
Oui,
sur...
j'avais vu la news, c'est pas mal comme idée. Maintenant, le problème, c'est comment ça va sortir en TPB.
Bah ouais, et puis alors surtout, ça va alterner deux intrigues. C'est-à-dire que les numéros normaux, on va dire, traiteront d'une intrigue, et les numéros 0.5 traiteront d'une autre.
C'est simple, les numéros normaux vont traiter du personnage principal, et dans les numéros 0.5, on verra l'autre côté, justement. Enfin, en tout cas, la force qu'il essaye de combattre. Je trouve ça intéressant. Pour moi, c'est pas plus, il y aura pas plus de confusion que d'habitude, en tout cas.
Ouais. Oui, de toute façon, ça en revient au même, hein. C'est comme s'il avait alterné dans ses histoires.
Ouais, non, puis même, enfin, je veux dire, c'est dans le ton de la série, quoi. C'est assez marrant comme principe. À voir si trop d'Unwritten risque pas de lui porter préjudice, justement, parce que les fans ne pourront pas forcément suivre après au niveau du porte-monnaie.
Peut-être. Bien alors, comme tu dis, ils devront attendre les TPB, mais les TPB, du coup, il y en aura deux fois plus.
Ben, je pense, ouais, qu'il y aura un TPB sur Tommy Taylor et un TPB sur les points 5, quoi.
On verra ce que ça donne dans les faits. On continue avec toujours de l'indé et une mini-série Masters of the Universe chez Dark Horse.
Les maîtres de l'univers avec
Oui,
Luthor et compagnie? Enfin,
exactement.
Iman en anglais.
Oui, tout à fait, oui.
Ok, je savais pas
Mustlor,
qu'ils avaient
Skeletor.
récupéré la licence.
Bah écoute, voilà, encore une licence de plus chez Dark Horse. Tim Seeley au scénario et Wellington Alves au dessin.
Oh,
Avec des
ça va en plus.
couvertures d'Eric Powell. Bah
Franchement,
écoute.
moi je dis bonne équipe.
Ouais, et puis en plus, les visuels sont sympas, ça rappelle notre enfance, certaines figurines qu'on a peut-être eues.
Et puis le dessin animé.
Et puis le dessin animé aussi, mais je l'ai pas trop vu, je l'ai pas trop connu en fait ce dessin animé.
Ils avaient tenté un revival chez Image dans les années 2000. Ça n'avait pas forcément bien bien marché.
Et je crois même qu'ils ont tenté un revival du dessin animé,
C'est
quelque part.
possible ça par contre. Je ne sais pas.
Bref, bon bah en tout cas. Avis aux amateurs de ces personnages-là qui arrivent très bientôt chez Dark Horse. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre, Steve? Une news?
Chez Image, on a le retour d'un grand, un très très grand de la série télé, MacGyver.
Oh là là! Oh mon Dieu!
Et donc on a un visuel avec un couteau suisse, avec un his back, MacGyver Fugitive Gauntlet, ça s'appellera.
Oh
C'est
là là!
prévu pour l'été 2012,
L'été
dernière série.
2012, il faudra
Ouais.
attendre un an pour découvrir ça. Mais quel suspense.
Quel suspense, ça a ménagé les effets chez Image. Hein. Donc derrière cette, je crois que c'est une mini, on a Lee David Zlotoff qui est le créateur de MacGyver.
Ah oui. Bon,
C'est
tu
un
veux savoir ce que je
de...
pense?
Vas-y.
Je pense que le mec pouvait plus faire de série télé parce qu'on voulait plus, donc il s'est dit, bah tiens, je vais le faire en bande dessinée, du coup.
Mais c'est marrant ce petit retour de MacGyver, c'est assez drôle puisque on a la série Burn Notice qui marche relativement bien aux États-Unis et qui est quand même, je trouve, parfois bien inspirée de MacGyver, en tout cas plus sur les premières saisons que sur les dernières actuellement. Mais le mec, c'était de l'espionnage sans jamais tuer personne et en fabriquant toujours plein de trucs avec des objets ridicules. Et
D'accord.
c'était assez drôle, quoi. Et justement, dans un des épisodes qui est passé il y a une semaine ou deux,
Il fait une guest apparition.
le mec montre comment descendre en rappel sans se brûler les mains avec une corde, mais donc on utilise sa chaussure. Et c'est toujours marrant, ça me fait toujours penser à MacGyver, ce petit truc, je construis trois machins, et hop, ça me fait un détecteur de
Je vois
fumée.
pas du tout d'ailleurs comment tu fais pour utiliser ta chaussure.
En fait, il noue sa chaussure autour de la corde, et il glisse en tenant sa chaussure pour ne pas tenir la corde à main nue, et donc s'arracher la peau quand tu descends en rappel d'un bâtiment.
D'accord.
Surtout quand tu dois descendre très vite, poursuivi par les flics.
Il y a quelqu'un qui a dû essayer ça, puisque devant chez... petite anecdote, devant chez Album, donc à Paris, il y a une espèce de câble qui traverse la rue, et il y avait une paire de godasses la dernière fois que je suis passé, qui était accrochée en plein milieu du boulevard Saint-Germain. Donc Ben voilà. Les gens qui passeront là, à cet endroit-là, pensez à regarder en l'air. Peut-être que vous verrez une paire de chaussures comme ça.
Ça permet en fait de se faire un, c'est une espèce de treuil, quoi, comme tu peux utiliser
Oui, c'est
ta
ça.
ceinture
C'est ça.
façon Tango et Cash, hein.
Non, mais là, c'était vraiment la paire de shoes, comment dire, qui tenait au câble avec avec les lacets, quoi.
C'est excellent.
Voilà. Donc, je ne sais pas comment c'est arrivé là. Mais bon, regardez en l'air, peut-être qu'elles y sont toujours. Peut-être d'ailleurs qu'elles y sont même depuis très longtemps. Les
C'est
fameuses
peut-être de
chaussures
l'art
de Saint-Germain.
contemporain. C'est possible.
Bon, bref, allez, on va passer à la suite. Il y a encore une chose chez DC qui vient de tomber tout à l'heure. DC a fait une annonce sur le fait que les créatrices, donc les femmes dans dans le monde des comics, n'étaient pas oubliées et que
Ah
on
bon?
allait leur donner pas mal de nouveaux projets.
Ouais, des mini-séries donc. Voilà. Donc chez DC, les femmes sont bonnes à écrire des mini-séries.
Bah, en tout cas, elles sont toujours là, quoi. Donc, on...
Bizarrement, on les a pas trop vues hein, dans ces 52 relaunchs.
Ouais, mais bon, ça arrive, voilà. Enfin, elles n'ont pas disparu, quoi, en tout cas.
Au moins, ils ont entendu les critiques que tout le monde leur faisait.
Bah, c'est pas mal, parce qu'on peut pas en dire autant de tout le monde non plus.
Oui, ils sont à l'écoute un minimum. Et bien sur ce, on va passer à la double review de la semaine, après cette longue partie de news. Mais il y avait des choses à dire, mais des choses
Ouais.
très intéressantes. Et puis des anecdotes, c'est toujours très drôle.
Très
Même
bien.
des chaussures accrochées à une corde, j'en reviens pas. ça me fait marrer. Bref, la double review de la semaine, c'est X-Force, enfin Uncanny X-Force, autant pour moi, numéro 12. Scénario de Rick Remender, Mark Brooks au dessin, Andrew Curry à l'ancrage. C'est la deuxième partie de la marque, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs.
Ah bah c'est
C'est la
Dark
Dark Angel
Angel Saga,
Saga.
non?
Ouais, voilà, pardon. Je me demandais si c'était pas Retour à l'ère d'Apocalypse ou un truc dans le genre, mais non, c'est la Dark Angel Saga.
Eh oui.
Beaucoup de choses qui font rappel à d'anciennes continuités, justement la Dark Angel Saga, comme on a eu la Dark Phoenix Saga, le retour de l'ère d'Apocalypse.
Oui, j'y avais même pas pensé d'ailleurs, Dark Angel, Dark Phoenix.
Ah ouais?
Non.
Ah ouais, c'est le premier truc auquel j'ai pensé.
Non, moi ça me faisait penser à Buffy, Dark Angel.
Ah
Non,
oui, bah oui.
d'ailleurs ça n'a rien à voir.
Non, en plus, puisque
Tout à
Dark
fait.
Angel est c'est une série créée et produite par James Cameron.
Oui,
Et
c'est
non,
vrai
mais
que c'est Angel. Oui, enfin bon,
beaucoup de gens font la confusion hein, d'ailleurs.
qu'importe, 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 vu que je ne suis pas fan de Buffy, comme vous pouvez vous en rendre compte. C'est normal que je fasse
Mais tu as le droit, tu as aussi le droit de ne pas aimer Buffy.
Bah, j'aime bien
Bref.
la nana telle quelle, hein, mais sa série, non.
Et donc là, tu viens de te griller au niveau crédibilité.
Oui, c'est pas grave. On continue.
Les membres d'X-Force, excepté Archangel,
Ouais.
se sont vus repartir à l'ère d'Apocalypse avec Hank McCoy, mais version d'Apocalypse, donc Dark Beast,
Oui.
pour aller chercher une graine de vie qui permettra de détruire l'essence d'Apocalypse qui se trouve dans le corps d'Archangel. C'est super complexe, dit comme ça. Mais en
Ouais,
fait,
non, mais
c'est
en
très
fait,
simple.
c'est très simple, oui. Tout à fait
Voilà.
simple.
Archangel est possédé par Apocalypse. Il va devenir le nouveau Apocalypse. Donc, il faut l'en empêcher. Le seul moyen de l'empêcher, c'est de trouver cette graine de vie. Or, cette graine de vie est ramenée par des célestes. Elle arrive tous les milliers d'années. Elle viendra pas sur la Terre 616 bientôt. Donc, il faut aller en chercher une. Et Dark Beast en avait une dans son labo dans l'ère d'Apocalypse.
Ouais, ça fait comme par hasard.
Donc, les membres de Uncanny X-Force vont aller dans l'ère d'Apocalypse.
Eh ben c'est
Mais,
génial comme
et
idée.
ouais, voilà, ça fait très rêve de fan, rêve de geek, quoi, on peut le dire, hein, comme quand on avait vu à l'époque dans Secret Avengers, Captain America qui enfilait le casque de Nova. Voilà, c'est ce genre de petit rêve de fan, sauf que là, c'est super bien fait.
Oui, non mais enfin, il se passe, comme tu disais, énormément de choses dans cet épisode. Et pour moi, c'est vraiment enfin là du X-Men tel que j'aime en lire. C'est-à-dire, bah voilà, on retrouve d'ailleurs pas mal de X-Men qu'on connaît, quoi, qu'on aime suivre. On voit quand même Logan, on voit quand même Rogue, on voit quand même Jean Grey, du coup. Alors, la version ère d'Apocalypse.
Mais j'ai pas vu Rogue, moi.
Bah elle fait. Enfin, c'est vrai qu'elle n'a pas un grand rôle, mais elle est là.
D'accord, je l'ai raté.
Elle est là, elle est là. Elle est dans l'épisode. Mais toujours est-il que voilà, c'est vraiment du X-Men avec beaucoup d'action. Il y a des intrigues sentimentales. Chose qui est. Enfin, c'est vraiment. Il n'y en avait pas beaucoup, quoi, récemment dans les
Bah,
X-Men.
dans Uncanny X-Force, il y avait quand même cette espèce d'intrigue entre Psylocke, Archangel et Fantomex.
Oui, d'accord. Non mais je parle justement des autres titres mutants. C'est un truc vraiment qui me manque, quoi. Dans Uncanny X-Men, ça fait des années qu'il n'y a pas de vraie histoire de, tu vois, de.
Ah bah à l'époque on avait vachement de couples, quand tu regardes dans les années 90, on avait donc Jean Grey et Scott Summers, on avait Aurora et Forge qui ensuite se sont séparés et elle a été plus ou moins avec Bishop, on avait Archangel et Psylocke, enfin il y avait vraiment du monde ensemble quoi.
Voilà, et ben là je trouve ça très bien de remettre ça sur le tapis. Et bon bah il y a plein de rebondissements. Non franchement cet épisode
Mais j'ai oublié même le couple Gambit Rogue.
Oui, en plus, bien sûr, bien sûr.
Excuse-moi.
Mais enfin en tout cas voilà, donc Rick Remender m'avait pas du tout convaincu il y a un an de ça au commencement de Uncanny X-Force.
Moi, jusqu'à présent, j'accrochais pas trop. Et honnêtement, cet arc-là, j'accroche plus, quoi. C'est bon parce que tu m'as dit, tiens, lis-le, c'est pas mal, que j'y ai jeté un œil, et effectivement, c'est vraiment sympa. Après, il y a juste un petit truc qui me dérange, bah, c'est ce que je disais, le Dark Angel Saga qui rappelle le Dark Phoenix Saga, le retour à l'ère d'Apocalypse, enfin, c'est du neuf, mais vraiment avec du vieux, quoi. Et malheureusement, pour arriver à faire quelque chose d'intéressant aujourd'hui, en tout cas dans la branche X-Men, il faut aller taper dans le vieux et essayer de refaire du neuf avec du vieux. Il y a quasiment plus d'idées originales, c'est ça qui me gêne. Le dernier arc d'X-Men qui était assez sympa, dans la série X-Men Volume 3, voilà, on fait un rappel flashback sur les années 60. Les New Mutants, la série est vraiment sympa, mais bon, ça fait appel à la nostalgie des années 80. J'ai l'impression qu'on n'arrive plus à faire du vrai neuf, et quand on fait du vrai neuf, bah, comme Matt Fraction essaye d'en faire, c'est pas bon.
Oui, non mais en tout cas, je préfère nettement lire ce Uncanny X-Force que lire
Ah oui.
du schisme. Non mais par
En
exemple.
revanche, c'est très bon. Enfin, voilà, ça n'empêche pas qu'il y ait une très bonne qualité. C'est juste que c'est dommage de devoir forcément aller faire de l'ancien, quoi. Dommage qu'on n'ait pas autant de créativité avec des nouvelles idées.
C'est vrai.
C'est juste ça qui me gêne. Mais le truc est vachement bien. Là, Remender a fait un énorme travail sur la continuité parce que non seulement il fait rappel à l'ère d'Apocalypse, mais il fait rappel aussi aux séries qui ont lieu après.
Oui, mais enfin, ce qu'il y a de bien aussi, c'est il a le mérite de. Enfin, je pense que quelqu'un qui même n'a pas lu l'ère d'Apocalypse à l'époque peut lire cette histoire, l'apprécier et la comprendre, surtout.
Ouais, je pense, ouais. Je pense. Bon, c'est vrai que c'est quand même nettement plus simple quand on a lu l'ère d'Apocalypse, on sait qui est qui.
Oui,
Parce qu'il
enfin
y a
là,
des
bon.
personnages, enfin voilà, on sait pourquoi Jean Grey agit de telle façon et on comprend mieux les choses.
Mais enfin, tu vois, je trouve ça bien mieux foutu que Edge of X, qui n'était ni plus ni moins que finalement bah, une ère d'Apocalypse bis, quoi.
Edge of X commence très bien et finit pas très bien, je trouve.
Ben moi,
C'est
je suis
pas
même pas allé
juste.
jusqu'au bout, donc c'est pour te dire. Je le découvrirai dans son intégralité en français.
Ouais, mais comme quoi, si t'as décroché en cours de route, c'est que c'était pas si bien que ça.
Ouais. Non, mais tout à fait. C'était pas si bien que ça.
Là, il y a quand même un truc que j'ai trouvé excellent, et que Remender n'a pas oublié aussi, c'est cette relation entre non seulement entre Jean Grey et Logan, enfin le Logan de Terre 616, mais surtout la relation entre et ce que peut ressentir Logan quand il revoit Kurt.
Oui, c'est vrai.
Il insiste vachement là-dessus, et il a raison parce que bah, c'était son meilleur ami quand même. Non, je sais pas, il y a vachement d'émotion dans ce numéro, ce qui est quand même aberrant pour Uncanny X-Force, où c'est quand même relativement brutal, enfin dans l'ensemble. Il y a pas mal d'émotions et là ça devient vraiment intéressant. S'il pouvait garder une qualité comme ça, ce serait vraiment excellent. J'espère qu'il va continuer comme ça.
En tout cas, moi, c'est vraiment, pour une fois, le titre dont j'ai envie de lire la suite très vite, et ça
Ah
fait
purée.
longtemps que ça n'arrive pas sur du mainstream.
T'as vu ce cliffhanger?
Bah oui, en
Voilà,
plus.
le cliffhanger est excellent. C'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de l'histoire. Bon, grosso modo, ils se sont retrouvés piégés dans l'ère d'Apocalypse, puisque les Amazing X-Men, donc les Amazing, faut connaître l'ère d'Apocalypse, quoi. Ils se retrouvent interceptés donc par ces Amazing X-Men qui pensent que ce sont des clones qui travaillent pour Dark Beast. Ils chopent cette graine de vie et la détruisent. Et Dark Beast, voyant ça, profite de la confusion et se barre. On ne sait
Voilà.
pas où, on pense qu'il est peut-être retourné sur Terre, mais peut-être pas. En tout cas, il s'est barré et il les a laissés en plan dans l'ère d'Apocalypse. Donc à eux d'essayer de trouver un moyen de rentrer, tout en essayant de trouver le moyen de ramener aussi ce qu'il faut pour guérir Archangel.
Et ça commence là, d'ailleurs.
Voilà, grosso modo, et donc là, ils vont essayer de composer avec le fait d'être dans un monde différent où ce sont des personnages qu'ils connaissent, qui ont un peu la même façon d'être et la même façon de penser, mais qui ont une expérience totalement différente. Donc on a une Jean Grey qui est beaucoup plus agressive, celle qui est de bah, celle de l'ère d'Apocalypse, quoi. Et c'est vrai que, bien écrit, ça manquait de revoir ces personnages-là.
T'as pensé quoi de cette nouvelle équipe de super vilains?
Faut voir. Faut voir, parce qu'on les voit à peine, quoi.
Oui, c'est vrai qu'on les voit pas beaucoup. Mais
On
enfin,
les voit à peine, ouais.
dans l'idée, j'ai trouvé ça assez drôle, quoi.
Ouais, il y a des choix intéressants.
Bon.
Peut-être à part une petite vanne de Remender sur Hulk,
Ah, je l'ai même pas remarqué
le
d'ailleurs.
Orange Hulk.
Ah oui. Oui, t'as raison, oui, tout à fait, bien sûr.
Qui se fout peut-être de la gueule des couleurs, je sais
Oui,
pas.
ça doit être ça.
Non, faudra voir ce que ça donnera au prochain épisode, où il va y avoir vraiment une bonne baston, je pense. Mais c'est vraiment très intéressant, c'est clairement un bail. Cet arc est un bail.
Et sinon, que penses-tu de Marbrooks, justement?
Mais moi j'aime bien.
Moi aussi.
J'aime bien. D'ailleurs, je voulais préciser que pour l'arc, on n'est pas obligé d'avoir lu les numéros précédents. Il y a un bon rappel qui est fait au début du numéro 11 sur ce qui s'est passé. Moi, j'ai pas lu le 10, j'ai même pas lu l'arc d'avant parce
Ah bah moi
que
non plus.
ça m'a pas accroché du tout. Donc, voilà, enfin, le dernier épisode de X-Force que j'avais lu, c'était le X-Force 5.1. Et je suis
D'accord.
passé au 11 et j'ai eu aucun souci.
Et moi j'avais lu un épisode un petit peu un stand-alone il y
Ouais,
a
le
pas
9
si.
où il y avait Magneto qui découvrait l'existence d'Uncanny X-Force.
Voilà. Qui était
Voilà.
sympathique mais qui était pas non plus
Donc
aussi bon.
franchement, même si vous suivez pas cette série, que vous avez aimé l'ère d'Apocalypse, prenez cet arc, vous verrez, c'est vraiment sympa. Pour Mark Brooks, effectivement, moi j'aime beaucoup et y a quand même une grosse polémique hein, sur le net, je pense que tu es au courant. Hein.
Oui,
Tout
bah
le monde
oui.
lui crache dessus, enfin beaucoup de gens lui crachent dessus en tout cas, et je n'arrive pas à comprendre pourquoi.
Non. Moi, personnellement, là, je trouve que, y a des pages qui me font penser à du Mike Deodato, et comme j'aime bien Mike Deodato, j'aime bien ce style, moi j'aime bien Mark Brooks.
C'est joli, c'est efficace. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus, quoi? J'arrive pas à comprendre ce qu'on peut lui reprocher. Alors, si vous avez une idée, auditeur, eh ben, dites-le nous dans les commentaires, parce que j'aimerais bien savoir ce qu'on lui reproche à ce
Bon, puis
monsieur.
même la tronche de son Wolverine,
Mais moi, je
Sage
trouve
Jean
qu'il
Grey.
voilà, il fait vraiment bien le job, quoi. Éclairez-nous si vous savez pourquoi Mark Brooks a autant d'ennemis sur le net.
Puis j'ai bien aimé, sans trop spoiler, cette page avec l'espèce de sentinelle qui casse une vitre là.
Ah oui, elle est magnifique.
Voilà, enfin je sais pas, il y a beaucoup de choses qui sont bonnes en plus graphiquement. Ou bien alors il a fait un super progrès, tu sais, en un mois, mais je sais pas.
Non, non, mais même déjà, ça fait un moment que je le vois qu'on crache dessus, je regarde, je trouve pas ça si moche que ça. Donc si vous savez, dites-le nous. Bah, un bail pour toi, hein, Benny, je pense aussi.
Oui, Absolute Buy, puisque enfin, franchement c'est la meilleure lecture de la semaine. Et depuis bien longtemps, sur les mutants.
Et puis on va passer au review solo maintenant.
On passe au review solo et je commence avec le Amazing Spider-Man 666.
The Number of the Beast, pour les fans
Voilà.
de Maiden.
Ouais, mais qui ne l'est pas vraiment. D'ailleurs, ça aurait pu être plus Mephisto-esque, je sais pas comment on pourrait dire.
Pitié, pas
Alors, au
Mephisto, pas
scénario.
Mephisto, c'est trop des mauvais souvenirs.
Ouais, bah non, bah ouais, bah. Bon. Mais ouais, bon, bref, donc.
J'accepterai qu'il revienne que s'il annule.
Dan
Tout.
Slott au scénario, forcément, j'ai envie de te dire. Et Stefano Caselli au dessin. Bah alors, donc, prélude à Spider Island, même si la couverture laisse à penser que ça y est, on rentre dans le vif du sujet, pas du tout, j'ai
Ah
envie
bah
de
c'est
dire.
pourtant bien précisé sur la couverture, c'est marqué prélude.
Oui, c'est. Oui, enfin d'accord, mais il y a aussi le Spider Island en énorme, prélude, t'imagines quand même. Enfin, moi je pensais que pour un prélude, il allait se passer plus de choses, quoi. Là, au fait, à part la dernière scène, concrètement, qui nous fait vraiment rentrer dans le vif du sujet, bah, c'est un comics d'attente, quoi. C'est vraiment un comics. À chaque fois que je passais une page, je me disais, allez, bon là, ça va commencer, ça va commencer. Et au fait, on assiste vraiment à, je sais pas, une espèce de journée, la journée type de Spider-Man. Et alors, c'est chiant, quoi. Franchement, moi je me suis ennuyé profondément pendant toute une partie. C'est-à-dire que on le voit arrêter un bandit, on le voit arrêter un super vilain, ensuite il voit sa copine, il va au travail, il va voir les Fantastic Four, il fait du kung-fu, il joue aux cartes avec des super-héros. Et enfin, il y a cette scène finale qui nous montre bah, l'instigateur derrière Spider Island, quoi. Derrière le fait qu'il commence à y avoir des gens en ville qui ont des pouvoirs de Spider-Man, qui ont les pouvoirs de Spider-Man, d'un seul coup, comme ça
On
qui.
savait déjà qui avait lancé cette attaque, de toute façon.
Ouais, mais là, on voit qu'il y a quelqu'un d'autre peut-être
Oui,
derrière
voilà.
encore.
C'est ça le plus intéressant.
Alors, qui est-ce? Ça semble être un personnage féminin.
Ouais, mais moi j'ai une petite idée. Après, faut voir
Bah,
si ça s'avérera être ça.
toute façon, c'est pas grave, puisque là, c'est de la spéculation, donc allons-y, hein.
Mais moi je pencherais bien pour le retour d'une des Kraven.
Ah oui, encore?
Ouais.
Bah, je pense pas, parce que c'est trop tôt. Je pense que c'est trop tôt, et...
Mais ce qui me le met sur la voie, c'est le retour de ce personnage, qui a
Ouais.
donc bien changé.
Ouais.
Et comment elle pourrait avoir un tel contrôle sur ce personnage-là?
Non, mais moi je pense justement que ce n'est pas l'une des Kraven et que malheureusement, peut-être que ça a encore un lien avec Mephisto, qui, rappelle-toi, avait pris la forme d'une espèce de femme bizarre. Enfin, je sais pas, c'est assez bizarre. Et d'ailleurs, ce
C'est
qu'on a.
Mary Jane qui est derrière tout ça.
Enfin, tu vois, la personne qu'on voit fait penser vraiment à Mary Jane. Alors, est-ce que ce serait un clone? Est-ce que ce serait
Ah, c'est
en fait,
Jackpot.
non, non, en fait, je pense que c'est la personne qui apparaît au chacal lui apparaît au fait sous ses traits, peut-être. Mais
Ah bah
bon,
du
enfin,
coup, j'avais peut-être pas pensé à ça, mais un clone de Gwen Stacy.
oui, il y a aussi ces spéculations-là sur Internet, un clone de Gwen Stacy, mais bon, ce serait un peu bizarre. Non, mais enfin, la surprise aussi. C'est que on apprend quand même que le chacal, visiblement, lui, sait toujours que Peter Parker est Spider-Man. Ce qui est assez étonnant d'ailleurs, puisque normalement, plus personne ne peut le déduire logiquement. Alors, d'accord, il a sans doute créé des clones et voilà, il s'est dit ah bah oui, il a les pouvoirs de Spider-Man. Mais néanmoins, tant que tu ne démasques pas physiquement Spider-Man, tu ne peux pas découvrir qui il est.
Bah, si tu démasques un clone, est-ce que ça revient pas au même?
Mais je ne sais pas. En tout cas, ça devient très 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 compliqué, cette
Ouais,
histoire
mais cette
d'identité
histoire
secrète.
d'identité secrète, d'ailleurs, ça me fait penser au dernier Venom, enfin celui du mois dernier, le Venom 4. À
Ouais.
la fin, t'avais Flash Thompson qui, voilà, qui regardait Peter Parker d'un drôle d'œil, quoi, se demandant peut-être s'il n'était pas Spider-Man. Enfin, voilà. Alors qu'on sait très bien qu'il ne peut pas le découvrir comme ça, normalement.
Exactement, il ne peut pas. C'est impossible. Sauf si un jour, il arrive à le démasquer lors d'un combat. Là, oui. Mais
Alors, est-ce que le symbiote se rappelle encore que Peter Parker est Spider-Man?
normalement, humain comme extraterrestre, etc., bah, théoriquement, plus personne ne se rappelle. Alors c'est pour ça que j'ai des doutes, je me dis, mais j'espère que c'est pas Mephisto qui est derrière le chacal, parce que Mephisto serait effectivement à même, peut-être, lui, de se rappeler, de savoir que Peter Parker est Spider-Man.
Pourquoi Mephisto irait faire chier Spider-Man? Je ne comprendrais pas.
Sais pas. Peut-être qu'il estime que le deal a été rompu. Enfin, j'en sais rien. J'espère que ça n'a rien à voir avec Mephisto. J'arrive même plus à parler, t'as vu. C'est terrible.
Ça te perturbe.
Ouais, ça me perturbe. Bon, enfin, bref. En tout cas, la fin est vachement intrigante.
Ouais.
Mais bordel, quoi. Qu'est-ce que c'était long à lire et qu'est-ce qui se passait rien?
Moi, tu vois, contrairement à toi, j'ai bien aimé. J'ai trouvé que c'était un bon petit épisode de Spider-Man, quoi, justement. Le Spider-Man qui a pas de bol, qui fait plein de trucs. Enfin, là, il a plus trop pas de bol. Le passage qui m'a le plus emmerdé, c'est ce passage avec la nouvelle Madame Web,
Oui.
qui m'a un peu saoulé.
Ah, Ino Kunfu. Voilà, ça me fait penser
Que
à
l'idée
Matrix.
de s'entraîner avec Shang-Chi pour compenser son manque de Spider-Sense, c'est pas mauvaise. C'est juste l'arrivée de Madame Web
C'est juste qu'il en chie, quoi.
Le fait que Madame Web soit là et qu'elle lui fasse encore le coup du futur, etc. Prépare-toi, il arrive un gros truc, tu vas être obligé de tuer, machin. Voilà, je trouve ça un peu facile, surusé, disons.
Ouais, non mais enfin bon, ça faisait peut-être longtemps que tu n'avais pas lu du Amazing Spider-Man. C'est peut-être pour ça que tu as autant apprécié, parce que moi franchement j'ai trouvé l'épisode assez ennuyeux jusqu'à la fin.
Je trouve que, disons, pour 3,99$, on a par contre vraiment de la lecture. C'est-à-dire que c'est
Oui,
pas le comic que tu lis en 5 minutes,
ouais,
quoi.
mais on a toujours de la lecture, parce que Dan Slott, justement, moi je trouve qu'il a un style assez lourd, puis aussi les vannes sont pas très drôles, quoi.
Ben ouais, c'est pas tant les vannes. Moi, je trouve qu'il s'est passé pas mal de petits trucs. Après, c'est pas des trucs forcément très importants, mais il s'est passé pas mal de petits trucs, quoi.
C'est là le problème, c'est que c'est un
C'est
ins.
du drame, ben, c'est du drama, quoi. C'est du Spider-Man.
Ouais, enfin moi je trouve que c'est surtout un assemblage de petites choses comme ça. À chaque fois, il nous fait des petites scénettes. C'est plus qu'une histoire, il nous fait des petites scénettes mis bout à bout et.
Spider-Man est un véritable soap opéra dans les mains de Dan Slott, mais moi ça me plaît.
Ouais, bah écoute, moi je suis pas convaincu. Et d'ailleurs, ça devait être le blockbuster de l'été, Spider Island. On est quand même quasiment en août.
Ouais, mais
Ça
alors,
démarre.
il y a des drôles de notions d'été, hein, aux États-Unis.
Oui, c'est vrai que l'été semble se poursuivre jusqu'en fin octobre, puisque Spider Island devrait se poursuivre
Et
jusqu'à
en
fin
même
octobre.
temps, l'automne commence en août. C'est très facile de mélanger les choses avec eux. Enfin bon, en tout cas, le crossover s'annonce intéressant.
Oui, ça s'annonce intéressant. Mais néanmoins, tu vois, je suis plus pressé de lire la suite d'Uncanny X-Force que de Amazing Spider-Man, ce qui est quand même un comble.
Oui.
Donc, eh ben, ce numéro de Spider-Man, pour moi, ce sera simplement un check-it. Parce que j'attends quand même que ça démarre vraiment.
À savoir que si vous voulez lire simplement le crossover, je pense qu'il sera fait un gros rappel dans la page de récap le mois prochain. Donc ouais, c'est clair que vous pouvez peut-être vous en passer.
Bah oui, je pense que de toute façon,
Pour les
là,
événements, en tout
ce qu'on
cas,
voit à la
les
fin,
événements importants, ouais.
ce qu'on voit à la fin, on le verra forcément au démarrage du crossover. Voilà.
Eh bien, on va rester dans le monde du Spider-Man, puisque j'ai lu le Venom numéro 5, puisque, je sais pas, parlait de Spider-Land un peu dans la sollicitation que j'ai lue en diagonale, histoire de pas trop me spoiler.
Et c'est toujours du Rick Remender en plus.
C'est toujours Rick Remender, oui, ça va être l'épisode spécial Remender, en tout cas.
Do you remember?
Tony Moore.
Ah, t'as même pas écouté ma blague.
Non, j'ai pas très bien entendu.
J'ai dit do you remember, voilà, j'arrive même plus à le dire.
Eh bien.
Un espèce de slogan.
J'ai envie de te répondre I remember very well.
D'accord, bah oui, bah oui, bah surtout cette semaine.
Enfin, quoi que tu verras ce que je vais dire sur le Venom. Tony Moore et Crime Lab Studio pour les 6 premières pages, malheureusement, et Tom Fowler pour la suite. C'est déjà le très gros point noir de ce numéro, c'est que Tony Moore et Tom Fowler, donc deux artistes différents, deux styles différents, et je dois avouer que j'aime quand même vraiment moins Tom Fowler par rapport à Tony Moore. Et c'est un peu dommage. Dans cet épisode, on avait fini le premier arc le mois dernier. Donc là, c'est un épisode un peu plus d'attente entre avant de passer à Spider-Island, puisque Venom sera partie intégrante du crossover Spider-Island. Ça commence par un petit combat contre Human Fly, qu'ils ont été chercher très loin quand même.
Ah oui, la mouche quoi, zombie.
Une très bonne vieille vanne de Flash Thompson qui se fout de sa gueule en l'appelant Jeff Goldblum. Voilà, ça m'a fait sourire.
Non mais si, c'est drôle.
Donc il remplit vite fait sa petite mission, puisque Human Fly avait kidnappé la fille d'un sénateur, et il a la soirée off, décide donc de la passer avec Betty, qui vient de sortir de l'hôpital, comme on la voit d'ailleurs dans l'hôpital, hein, dans Amazing Spider-Man 66, suite aux événements qu'il y a eu dans Venom 4, justement.
Ouais.
Donc là, il va passer la soirée avec elle, mais ça va pas forcément bien se passer, puisque sa mère, à Flash Thompson, l'appelle en pleurs, son père s'est remis à boire, et elle ne sait pas où il est, et donc il va passer l'épisode à aller chercher son père, il va demander l'aide de Peter, Parker. Puis on va avoir des petits flashbacks comme ça sur la vie de Flash. C'est franchement un épisode qui est dispensable. Il est bien écrit, hein. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il est vraiment sympa, mais c'est franchement un épisode dispensable, quoi. Vous pouvez zapper cet épisode-là, vous n'aurez pas trop de problèmes avec la suite de Venom. Vous n'avez pas besoin de le lire pour vous mettre à Spider-Island.
D'accord, ouais. Donc là, t'es vraiment tombé sur l'épisode bouche-trou, quoi.
Ouais, voilà. Bon, c'était quand même bien fait. On en apprend un petit peu plus sur Flash Thompson, bon, en tout cas pour ceux qui ne le savaient pas encore. Certains trucs, on voit que son comportement change un peu, il a des accès de rage, etc. Alors, il blâme ça sur son père, mais est-ce vraiment son père? Est-ce que ce serait pas peut-être le symbiote qui déteint un petit peu sur lui?
Est-ce que c'est pas son père, le symbiote?
Voilà, et on a l'explication de pourquoi son père s'est remis à boire aussi. On a aussi la réaction de Flash Thompson après tout ça.
Est-ce que le symbiote s'est mis à boire?
Un Venom bourré, ça peut être sympa. T'imagines un Venom bourré dans les rues de la ville?
Ben non, j'imagine pas, je préfère pas.
Donc voilà, bon, un épisode sympathique, mais qui est vraiment dispensable, donc c'est tout juste un check-it, c'est même honnêtement un pass, hein, je veux dire, voilà, c'est pas un épisode très important, donc vous pouvez réellement vous en passer, mais l'épisode est néanmoins agréable.
D'accord.
Vous faire un choix. Si vous suivez la série, c'est un bon épisode.
Ouais.
Voilà. Si vous voulez juste vous mettre à Spider Island, attendez le prochain. Donc voilà.
Ou à Venom, d'ailleurs. Attendez le prochain aussi.
Deux.
Ben si, attendez le prochain numéro si vous voulez vous mettre à Venom.
Ah oui, oui,
C'est pas par celui-là qu'il faut commencer.
Ça permet d'avoir un petit peu, si on connaît pas du tout le personnage, ça permet de voir un petit peu qui il est, en tout cas. Ça peut être sympa aussi.
Ou ça peut te dégoûter de la série, et du coup, tu...
Oui, aussi. Mais bon, à savoir que le symbiote, on le voit que sur les 6 premières pages, hein, d'ailleurs, puisque ce sont les seules pages dessinées par Tony Moore. Après, c'est Flash Thompson en civil.
Très bien.
On passe à la suite, une petite review express, Benny.
Ouais, une petite review express de Batman Dark Knight numéro 4. Alors j'avais parlé...
Ouh, il est sorti.
Il est sorti, il est sorti. D'ailleurs j'avais émis des doutes lorsque j'avais parlé du troisième en review express.
Aussi. Voilà. Un gros doute.
Et au fait, il est sorti tout simplement parce que David Finch ne le dessine pas, c'est Jason Fabok qui le remplace.
C'est ce qu'on avait annoncé il y a de ça quelques semaines déjà.
Ouais, ben oui, mais j'avais complètement oublié du coup. En tout cas, le résultat est sympa. C'est-à-dire que Jason Fabok, c'est vraiment, on va dire oui, c'est un ersatz de David Finch, mais c'est un bon ersatz.
De toute façon, c'est son petit protégé, donc oui. C'est lui qui lui a appris sa façon de dessiner. C'est normal qu'il ait un style, en tout cas, qui pour le début de sa carrière, lui ressemble énormément.
Au fait, on ne le sait pas, mais c'est Jason Fabok qui a appris à David Finch à dessiner.
À dessiner à l'heure.
Voilà. Et en tout cas là oui, il tient les délais et le résultat est pas si mal. On a pratiquement l'impression de voir du David Finch. Et en plus, quand David Finch peut se permettre de se concentrer du coup un peu plus sur le scénario, les choses avancent. Donc ce numéro là est meilleur que le numéro 3. C'est-à-dire que ça y est, il se passe des choses. On apprend on a quelques petites révélations et les choses se mettent en place. Parce qu'on voyait pas où ça allait, c'était un peu brouillon le numéro précédent. Et là voilà, et le cliffhanger en plus est sympathique.
À noter que normalement, le prochain épisode sera aussi dessiné par Jason Fabok. Et
D'accord.
donc devrait sortir en août.
Mais ça me pose pas de problème. En tout cas, bon, mon petit épisode sympathique. Ça y est, ça avance, ça se met en place. J'attends avec impatience la conclusion de cet arc. Donc peut-être pour le 5, du coup.
Comme quoi, je sais pas. Je sais pas, faut
Ou
voir.
y aura-t-il un numéro 6, peut-être?
Comme quoi, en tout cas, David Finch n'est pas fait pour dessiner un comic mensuel.
Non, bah non. Non, malheureusement. Même si c'est très beau, voilà. Mais Jason Fabok veut bien le faire. Donc un bail. Autre review solo, Captain America and Bucky, numéro 620. Alors comme tu le sais, comme vous le savez d'ailleurs, le titre a changé de titre. Voilà. Donc ils ont rajouté Bucky, en fait. Puisqu'avant, bien entendu, c'était Captain America tout court, sinon on n'en serait pas déjà au numéro 620.
Et puis Captain America vient de redémarrer.
Et voilà, et c'est surtout ça, voilà. Captain America vient de redémarrer. Alors, le gros problème de Brubaker depuis des années, j'ai envie de te dire, c'est que dans ce titre Captain America, anciennement Captain America, eh ben, finalement, il scénarisait plus une série sur Bucky que sur Captain America.
Oui.
On est bien d'accord, de toute
Oui,
façon, vu que
bah oui.
Captain America avait remplacé, vu que Bucky avait remplacé Captain America d'une part, et d'autre part, c'était même plus sur Bucky que Captain America, dans le sens où les histoires faisaient appel plus au passé de Bucky qu'au fait qu'il ne prenait la place de Captain America, quoi. Tu vois ce que
Ouais,
je veux dire?
c'était même plus une série sur Winter Soldier, en fait.
Voilà, c'est ça, Winter Soldier, Bucky, ça te ramenait toujours à la guerre de 40, aux premières aventures de Bucky, etc., etc. Et finalement, le fait qu'il prenne le costume de Captain America avait peu de conséquences. Il aurait pu ne jamais prendre le costume et on n'aurait pas vu la différence.
C'est clair.
Donc là, finalement, Brubaker, en désespoir de cause, a créé, comme tu dis, un titre Captain America, 100% Steve Rogers, enfin, j'ai envie de dire. Et là, du coup, il a pu rajouter le nom de Bucky à Captain America and Bucky, et se concentrer sur le personnage de Bucky, tout logiquement. Enfin, tout logiquement, non, puisque...
Mais j'ai envie de te poser une question quand même super importante. Bucky, il est pas mort dans Fear Itself?
Et ben alors justement, donc comment expliquer ceci? Eh bien, pour cet arc en tout cas, c'est une histoire qui se situe rebelote complètement dans le passé. Mais alors
Bah,
vraiment.
c'est un épisode classique de Captain America, alors.
Complètement dans le passé. Non mais c'est-à-dire que là, c'est vraiment. Il n'y a rien qui se passe dans le présent. On est totalement dans le passé. Au fait, c'est une espèce d'autobiographie de Bucky qui nous narre ses premières années d'entraînement. Et d'ailleurs, ce numéro se termine sur. Enfin, se termine quasiment sur sa rencontre avec Captain America.
J'ai envie de dire encore une fois, quoi, c'est pas la première fois qu'on a les années d'entraînement avant qu'il rencontre Cap, qu'il rencontre avec Cap, machin. Enfin, ça fait des fois et des fois qu'on a ça, quoi.
Ouais, mais bizarrement, tu vois, quand j'ai lu cette histoire, j'avais pas l'impression de relire l'histoire.
D'accord.
C'est-à-dire que ils arrivent quand même à nous montrer des choses qu'on n'avait pas vues. Et en plus, comme ça, raconté par Bucky, bah c'est vachement intéressant. Enfin, moi, en tout cas, j'ai été, pas scotché, hein, faut pas déconner, mais j'ai été en tout cas intéressé du début à la fin. J'ai hâte de lire la suite. Alors, faut savoir que Marc Andreyko est au scénario avec et co-scénariste avec Ed Brubaker et que Chris Samnitt au
Qui
dessin.
avait écrit Manhunter, notamment chez DC. Le personnage, c'est de Manhunter, Kate Spencer. Celle qui était la DA le jour et Manhunter la nuit.
D'accord. Ok. Je fais semblant, tu sais, je fais le mec qui... Oui, bien sûr,
Elle
Manhunter.
était en backup dans Streets of Gotham, les
Ah si,
premiers épisodes.
bah si, Manhunter, oui, ce personnage féminin, bien sûr.
Oui, voilà.
Non, non, mais moi je sais pas pourquoi je voyais un homme en plus,
Ben,
Manhunter, c'est
la
la
première
première
version
chose.
était un homme. Et après, c'était.
D'accord, ok.
C'est compliqué.
Non, 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 mais très bien. Ok, non, mais je vois maintenant qui c'est, effectivement. Elle ressemble un petit peu à une nana en costume rouge.
Avec des cheveux.
Avec des cheveux, oui, c'est bien pour une nana. Ben voilà, donc en
Bon,
tout
au
cas,
dessin, excuse-moi, je t'ai coupé, du coup, j'ai. Voilà.
Chris Samnee au dessin.
Ah ouais, sympa. Sympa, donc pour donner un côté rétro.
Oui, mais en tout cas, on est vraiment dans les années 40. C'est un petit peu, bah, c'est un petit peu aussi la version Bucky de peut-être du Crâne Rouge quoi qu'on a eu récemment.
Tu vois, le fait que e-comics soit coécrit, pas seulement Brubaker, m'intéresse déjà un peu plus.
Ben écoute, en tout cas, j'ai trouvé ça vraiment sympathique. Et j'ai envie de continuer vraiment, en tout cas cet arc. Alors la grande question c'est, mais une fois qu'ils auront raconté à nouveau, comme tu dis, l'histoire de Bucky, qu'est-ce qu'ils vont raconter sur Bucky?
Vu que ça s'appelle Cap and Bucky, j'ai bien peur qu'on ait des histoires qui se passent que pendant la Seconde Guerre mondiale.
Voilà, ouais. Mais en même temps, celle-là est tellement sympathique, j'ai envie de te dire que pourquoi pas. En tout cas, tant que ça reste à ce niveau-là, c'est vraiment bien écrit. Enfin voilà quoi, j'ai vraiment apprécié. J'ai l'impression de regarder un film un petit peu. Donc c'était sympa.
Donc un bail, quoi.
Donc un bail, ouais. Bonne
Oui.
surprise.
Tant mieux. Bah écoute, tu vois, le départ me donnait pas super envie, ben maintenant si.
Eh ben, tu vois, je suis
Ben voilà.
super content.
Donc ouais, j'irai voir. Et si c'est pas bon, bah je te casse les deux jambes.
D'accord, pas de
Non,
problème.
normal, quoi. De toute façon, c'est comme ça qu'on fait d'habitude.
De toute façon, j'en ai bientôt plus, donc tu peux y aller.
Tu pourras peut-être devenir le nouveau Flash Thompson.
Oh, c'est sympathique.
Et tu seras le premier fan de Spider-Man, le vrai.
Ben, je le suis déjà en plus. Non,
Oui.
enfin, plus tellement en ce moment, c'est vrai.
Ou l'art de disserter pour ne rien dire.
Voilà, très bien. Alors.
Allez, on va passer à la suite très très rapidement. Le Action Comics 903. Paul Cornell au scénario, Axel Guiménez au dessin. À ne pas confondre avec donc Phil, hein. Ça c'est pas du tout pareil.
Alors tu nous fais une double oui, non pas une double d'ailleurs n'importe quoi,
Non,
une review express.
une review express, oui. Je me suis fait bêtement avoir par la sollicitation. J'avais cru, ou j'ai mal lu sûrement, que c'était la fin de l'arc Doomsday. Eh ben non, c'est pour le mois prochain et donc le dernier numéro d'Action Comics. En gros, l'Eradicator était mort dans le numéro précédent, il se faisait tuer par Doomsday. Eh ben non, il n'est pas mort. Il a réussi à transférer sa conscience dans un des Doomsday.
Ah, c'est bien
Qu'est-ce qu'il
pratique.
est balèze, putain. Qu'est-ce qu'il est balèze, ce mec. Donc en gros,
Eradicator qui était revenu récemment, c'est ça, hein?
mais qui faisait partie des Outsiders.
D'accord, donc en fait, pendant des années, il était là, quoi.
Oui, il était toujours là dans le camp des Outsiders,
C'est
une
juste que
série
c'est un
qui ne se
personnage que
vend
j'ai pas
pas.
envie de voir, quoi.
Non, mais c'est une série qui ne se vend pas, donc voilà. Elle s'est arrêtée là il n'y a pas longtemps. Elle s'est même arrêtée avant le relaunch général.
Bah,
Pourquoi? Parce qu'elle ne se vendait pas.
tu sais, moi, au début, dans la sollicitation, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais j'avais lu Jason. Non, Red Hood and the Outsiders, au fait. Parce que bah, ça aurait été logique en même temps.
Oui, bah oui, mais là c'est les Outlaws, mais je pense que c'est un moyen de faire le rappel, puisque Batman, au début c'était Batman and the Outsiders, Batman s'était barré de la Justice League, avait fondé un autre groupe, les Outsiders, et justement le fait que ce soit Red Hood qui fait vaguement partie de la Bat Family, avec des gens qui sont un petit peu en marge, ça fait quand même relativement penser aux Outsiders.
Ouais, ils auraient pu l'appeler comme ça. Mais bon, bref, ne dissertons pas là-dessus.
Bon, grosso modo, ils vont aller se battre contre les Doomsday qu'il y a sur Terre. Il y en a trois, donc Superboy se bat à Hawaï. Tiens, comme c'est le petit clin d'œil, tu vois, Superboy à Hawaï, comme au tout départ de
Ah
la
oui.
série Superboy,
Oh là
quand il
là.
était le clone là,
Ah
enfin, le départ de la série des années 90. Hein.
oui. Oui.
Il y a comment elle s'appelle, Supergirl qui se bat à Metropolis, je crois, ou je sais pas, Metropolis ailleurs, je ne sais plus,
Petite ville
mais.
pas très connue du mythe de
Et puis on a
Superman.
Steel, voilà, Steel qui se bat à Moscou. Donc chacun essaye d'empêcher un des Doomsday de faire exploser un truc super important. Donc il y en a un qui est sur une ligne, une faille, tu vois, qui veut déclencher un tremblement de terre, l'autre qui veut lancer des missiles atomiques, et le dernier, je sais plus ce qu'il fait. De toute façon, c'est pas intéressant, donc j'ai pas forcément bien retenu. Superman va se projeter très très fort et très très vite grâce à un canon dans le super vaisseau de ce Doomslayer. Et va aller au cœur du vaisseau pour essayer d'arrêter le plan du Doomslayer qui est de s'infiltrer dans la croûte terrestre et de croître très rapidement de manière à faire exploser la Terre.
Oui, en effet, oui. Donc Paul Cornell, pas très inspiré quoi par Doomsday.
Voilà, grosso modo, Doomslayer n'est pas content parce que le plus gros problème pour lui, c'est pas que Superman l'arrête, mais de découvrir qui il est réellement. Moi, ma supposition, ce serait que c'est le Doomsday original. Puisqu'apparemment, dans le cœur du système du vaisseau, c'est un truc où le temps passe vachement plus rapidement. Que ce serait peut-être un Doomsday qui aurait vachement évolué, qui en serait venu à comprendre qu'il n'est qu'un moyen de destruction, qu'il souhaite arrêter ce cycle-là. Bon, c'est ma vision des choses, c'est
Moi, non,
pas
moi je pense
forcément
que c'est
ça.
Perry White. Hein.
Vous l'aurez compris, c'est un total pass, c'est une putain de grosse merde. Il
Ah,
se
d'accord.
passe franchement rien. Si, de la baston, et c'est même pas super beau.
D'accord.
Voilà, puisque on avait Kenneth Rocafort qui est parti lui dessiner Red Hood and the Outlaws. Voilà, il fait toujours les covers, mais il ne fait plus le titre. Et donc, la sollicitation pour le mois prochain, c'est que justement, plus rien à perdre puisque tout s'arrête. Ce qui fait peur, j'ai bien peur qu'on ait une grosse baston ridicule où tout explose, etc. Mais de toute façon, il n'y aura pas de conséquences puisque le mois d'après, ça redémarre au numéro 1.
Bon bah on verra, on verra.
C'est un pass. Cornell, je plains le pauvre, on lui a laissé cette histoire de merde entre les mains, il a fallu qu'il se débrouille avec ça, il essaye de faire du mieux qu'il peut, mais voilà, je crois que de toute façon, il n'est pas forcément inspiré, il sait très bien que ça ne compte pas pour la suite. Il fait le minimum syndical et je le comprends.
Ok.
On va passer à une vraie review solo. Je vais faire très rapide puisqu'on est déjà bien avancé sur le temps. Le Teen Titans numéro 98. Là encore, j'ai lu la sollicitation, j'ai pris celui-ci. Ça fait très longtemps que j'ai pas lu Titans. Le dernier numéro de Titans que j'avais lu, c'était quand Damian était arrivé dans l'équipe, donc ça remonte à plus de 6 mois, je crois.
Ouais.
C'est J.T. Crew le scénario, Eduardo Panzica au dessin et Heber Ferrara à l'ancrage. Et j'ai lu la sollicitation et on nous annonçait le retour de Superboy Prime.
D'accord. Donc quand
Je me
c'est
suis
pas
dit,
quand c'est pas
encore.
le petit
Ouais.
Damian Wayne, c'est Superboy Prime.
Je vais quand même aller jeter un œil, je vais voir ce que ça vaut, on sait jamais. Eh ben, honnêtement, très bonne surprise. C'est un très bon épisode des Titans. Alors, je ne savais plus du tout ce qu'il s'y passait avant les Titans. Et là, j'ai retrouvé l'équipe des Titans que j'aime. C'est-à-dire avec un Robin, le Red Robin, Tim Drake. On a Superboy qui est là. On a Wonder Girl. On a Kid Flash. On a vraiment des Titans classiques. On a aussi, bien sûr, Raven et Beast Boy.
Et justement, alors, Damian Wayne n'y est déjà plus.
Non, n'y est plus du tout. Il a été remplacé donc par Red Robin. Et c'est un très bon choix, puisque Red Robin reprend tout de suite les rênes de l'équipe. Enfin, en tant que Robin, c'est un peu lui le chef. Ça a quasiment toujours été lui le chef des Titans. Et donc c'est un rôle naturel. Et puis Tim Drake a été habitué aux Titans. Il en a fait partie pendant très longtemps. Donc il a repris sa place. Enfin, voilà, il y a des intrigues sur les personnages. Mais même si j'ai pas lu Titans depuis très longtemps, eh ben, j'ai pas été perdu.
D'accord, bah c'est une bonne chose alors.
Cassie et Connor rompent définitivement.
D'accord.
Beast Boy a cette fois-ci, lui, un rendez-vous avec quelqu'un. Il va peut-être enfin pouvoir sortir de cet amour qu'il porte à Raven et qui n'est pas réciproque.
C'est pas Ravager, par exemple.
Non, 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 c'est vraiment une humaine normale.
D'accord.
Et donc il était en rendez-vous quand Superboy Prime décide de passer à l'attaque. Et bien sûr, Superboy Prime se retrouve, lui, sur notre Terre, on ne sait pas trop comment. Il ne comprend même pas vraiment pourquoi. Mais en tout cas, tout ce qu'il sait, c'est qu'il va essayer de tuer Connor et se venger. Quitte à détruire ce monde, puisque un monde sans la fille qu'il aime, Laurie, donc, celle sur Terre Prime, bah, n'est pas un monde qui vaut le coup, qui s'en fout, il va tout détruire.
Bon, bah moi si je peux apporter une petite complainte, ce qui me déçoit quand même par rapport à ça, c'est que j'aurais bien aimé qu'il nous fasse une surprise du style Superboy Prime revient et il a changé quoi, il est pas complètement
Attends,
taré.
attends. Parce que la surprise, elle est à la fin. Bon, il se passe d'autres petites choses, je ne vous raconte pas tout, hein, parce que comme ça, vous aurez un petit peu des surprises. En tout cas, il a recruté des ennemis qui sont grosso modo des espèces d'anti-Titans. On a notamment Inertial, celui qui avait tué Bart, qui fait partie de cette équipe. Il y en a d'autres, des connus, des pas trop connus. Et surtout, un final monstrueux où Superboy Prime sort son arme secrète face à Connor. Et là, j'ai envie de dire, what the fuck? Et j'ai vraiment hâte de lire le prochain épisode, et d'ailleurs ça se terminera au numéro 100 qui sera le dernier numéro de la série, pour comprendre le fin mot de l'histoire. C'est super époustouflant et j'ai vraiment hâte de savoir pourquoi et comment.
D'accord.
Voilà, on peut pas, je pense qu'on pouvait pas faire pire menace.
D'accord, ok, bah écoute, alors là, d'accord, j'ai envie quand même de regarder ce dont tu parles.
Bah c'est un. Pour moi c'est un bail, mais vraiment c'est disons un bon check-it quoi. Si vous aimez un tant soit peu les Titans, là on a enfin le retour d'une bonne équipe classique. Jetez-vous dessus.
D'accord. Donc, petite review express pour terminer, Flashpoint Kid Flash Lost numéro 2. Donc tu te rappelles, on avait traité du premier en double review, je crois. C'était vraiment pas mal, et bah là, malheureusement, sur le 2, il se passe pas grand-chose, en fait. Un petit peu la déception de la semaine, c'est-à-dire que l'histoire n'avance pas, en fait. Ça commence là où ça se termine, cette histoire. Mais vraiment.
D'accord, génial.
On n'en apprend pas beaucoup plus, alors que le pitch était intéressant et qu'on pouvait se dire que on allait en apprendre beaucoup sur comment dire, pourquoi on en était arrivé là dans Flashpoint. Pourquoi l'univers avait tellement changé, etc. Et bah là, en tout cas, point de réponse, limite un peu plus de questions, et quand on se dit qu'il reste plus qu'un seul numéro, bah on se demande si finalement la mini-série aura servi à quelque chose. En tout cas, il va falloir que dans le dernier épisode, il y ait des réponses.
D'accord. Tout juste un check-in, voire un passe, quoi.
Bah ouais, malheureusement. Ouais. En tout cas, falloir voilà, que le dernier rattrape le tout, parce que s'il y avait juste le premier qui était sympa, on pourra faire l'impasse sur cette mini, quoi.
Bah, au rang des déceptions, j'ai fini la mini-série The Mission, qui est une mini-série qui sortait chez Image.
Ouais.
C'était l'histoire d'un mec qui devait travailler. L'archange Gabriel venait le recruter et lui demandait de tuer quelqu'un. Bah, il n'avait pas le choix, sinon de toute façon, il lui filait un cancer. C'est toujours sympa de la part d'un ange.
Ouais.
Bon, il s'est exécuté, il a effectué quelques petites missions pour cet archange, mission pour le plus grand bien, soi-disant, toujours très bizarre.
The greater good.
Voilà, c'est ça. Et puis bah du coup, ça finit un petit peu facilement, une fin qu'on attend. Alors, ça fait son petit effet, mais en même temps, on s'y attendait. C'est un petit peu dommage et un petit peu facile comme fin. Mais bon, la mini-série reste sympathique dans l'ensemble, même si les dessins sont pas franchement très top. Donc ça fera un bon petit TPB quand ça sortira. Si vous savez pas trop quoi lire, vous avez envie de lire une petite histoire fantastico-horreur avec un peu de suspense, bah, allez-y quoi. Mais voilà, un petit peu déçu par cette fin, dommage. Ben voilà, c'est tout pour cette semaine.
Exactement.
C'est déjà beaucoup, même pour cette semaine, puisque vu le chrono, on est déjà bien loin. Mais on va pas perdre de temps. On se retrouve comme d'habitude, bah déjà la semaine prochaine pour les sorties de la semaine prochaine.
Non, pour celle du mois dernier. Celle du mois dernier.
On va changer la formule. Et puis bah, bien sûr, vous pouvez nous laisser des commentaires sur Facebook, sur Twitter,
Des
sur X
insultes sur
site.
Twitter.
Oui. vous retrouvez tous les derniers épisodes sur iTunes, les plus anciens sur le site, bien évidemment. N'hésitez pas à passer sur le site pour lire aussi les articles de Sam, de Nono et de Jean-Lo, qui font aussi des reviews des choses qu'on n'a pas forcément traitées, ou même des choses qu'on a traitées avec leur avis à eux, qui ne sera pas forcément le même que le nôtre.
Ou même d'autres choses que des reviews d'ailleurs.
Oui, il n'y a pas que des reviews, il y a aussi des guides de lecture, il y a aussi des news, beaucoup de choses, donc n'hésitez pas à passer sur le site. Et puis, on va se quitter avec le traditionnel mot de la fin de l'année.
Eh bien non, car je n'ai pas de mot de la fin. Alors je te propose de faire un fameux jeu de mollet.
Oh, le jeu de mollet. Le jeu de mollet, donc vous l'écrivez comme vous voulez, de toute façon, ça a la même signification.
Ah bah
Et
non, ça peut
merci,
être un jeu
merci,
de...
ça me fait plaisir, parce que toi qui ne voulais absolument pas que je les sorte,
Ouais, vas-y, vas-y, fais-toi plaisir. Alors attention, tenez-vous bien ou coupez même maintenant parce que vous allez avoir très peur.
Donc, je vous donnerai la réponse la semaine prochaine. C'est une petite question. Vous pouvez répondre en commentaire, je vous donnerai la vraie réponse la semaine prochaine. Donc, je vais vous demander quel est le nom du roi des vampires espagnols. Attention, ça a son importance. Voilà, donc c'est un jeu de mollets, hein, donc comme son nom l'indique,
Ah oui,
c'est
non
pas
mais
beau
moi
quoi.
j'ai la réponse, c'est vraiment un jeu de mollet.
C'est vraiment mauvais, hein. Mais bon voilà, à défaut de mot de la fin.
Très bien.
Et
Voilà,
bien sur
ça
ce,
m'apprendra à pas avoir de mot de la fin.
je pense que pour la semaine prochaine, tu peux chercher dès maintenant.
Oui.
Et
Je vais m'y mettre tout de suite après. Hein.
bien
Pour
on se retrouve
s'éviter
donc.
ça déjà. Non, je pense que même les gens vont m'en chercher parce qu'ils vont dire c'est pas possible.
C'est
Bah
de
d'ailleurs,
fortes chances.
envoyez-en hein, des mots de la fin, vous pouvez toujours. Hein.
Ouais.
Certains avaient essayé de tenter l'aventure il y a quelque temps, et voilà.
N'hésitez pas. On se retrouve donc la semaine prochaine avec les sorties de la prochaine semaine, bien sûr, mais aussi la réponse de ce jeu de mollet.
Quel suspense.
Il y a le suspense. Et puis bah on se quitte et on vous souhaite une très bonne semaine.
Voilà, bonne semaine.